Chapitre 17e. Un pèlerinage. Eudoxia avait un grand goût pour une certaine piété extérieure. Comme elle avait reçu une instruction religieuse très solide, elle était obligée de confesser que, non seulement mille et mille de ses actes, mais toute sa vie, toutes ses pensées, tous ses sentiments étaient en désaccord avec les principes de la religion. Pour étouffer plus facilement les protestations de sa conscience, elle se jetait dans les démonstrations extérieures qui convenaient à ses inclinations. Prodigue en toutes choses, elle était aussi dans les aumônes qu'elle versait à pleine main pour les pauvres, pour les hôpitaux, pour la construction et l'embellissement des églises. Elle tenait à ce que les fêtes de l'église fussent célébrées avec le plus de pompe possible, parce qu'elle aimait tout ce qui était pompeux. La profonde aversion de Théodose pour le paganisme était passée en elle, et elle saisissait ardemment toute occasion d'écraser le culte du polythéisme. À la naissance de son fils, elle avait cajolé l'empereur pour qu'il ordonnât que le temple du dieu Marnas, à Gaza, en Syrie, fût détruit. Ces destructions des vieux temples du polythéisme avaient plusieurs fois excité des colères terribles dans la partie arienne des populations. Et dernièrement encore, à Alexandrie, le sang avait coulé dans une occasion semblable. L'empereur n'avait nulle envie de susciter un pareil trouble à Gaza. Mais Eudoxias s'entendit avec l'évêque de Gaza pour qu'il présentât sa supplique à son fils nouveau-né, lorsque cet enfant qui, dès les premiers jours de sa naissance, avait été reconnu César, et comme tel, participait dès lors à l'autorité impériale, serait présenté au baptême. Le chambellan qui le portait inclina la tête du jeune prince en manière d'assentiment au moment où on déposa la supplique sur son manteau de pourpre, et Eudoxia pria si instamment l'empereur d'exaucer le premier désir de son fils qu'il fut, comme toujours, incapable de lui résister. Le temple de Marnas tomba sans résistance de la part de ses adorateurs, et Eudoxia fit élever, sur son emplacement, une magnifique église, dont elle envoya le plan, dont elle fit tous les frais, à laquelle elle donna le nom de basilique eudoxienne. Grâce à ce zèle pieux, Eudoxia gagna le peuple chrétien. Il oubliait ainsi ses injustices, ses dissipations. Aussi avait-elle toujours soin de réchauffer l'attachement des populations chrétiennes par quelque acte religieux, surtout lorsqu'elle pouvait craindre d'avoir produit quelque part une mauvaise impression. Ce qu'elle avait entendu dire du dernier sermon du patriarche lui semblait mériter réflexion. Combien il était facile au peuple de lui en faire l'application. Elle avait donc à cœur de se réhabiliter aux yeux de la population chrétienne de Constantinople. Chrysostome ne se laissait pas aveugler par Eudoxia. Il était devant elle dans la position la plus difficile, car il était souvent forcé de lui faire des remontrances directes sur l'arbitraire et l'injustice de sa conduite, quand les opprimés, les dépouillés lui demandaient aide et protection. Souvent aussi, il était obligé dans ses sermons de l'avertir indirectement, en blâmant les manquements publics, les défaillances dont Eudoxia donnait elle-même l'exemple. Mais en même temps, il devait songer à ne pas faire perdre au peuple le respect qui était dû à l'impératrice. D'ailleurs, il espérait qu'avec le temps, elle se corrigerait de sa frivolité actuelle, et sans être convaincue de la pureté de ses vues, il accueillait tout bon mouvement de sa part avec joie, pensant qu'il pourrait être suivi d'un retour sincère, d'une véritable conversion. Amensius s'acquitta de sa commission. Il ajouta que l'impératrice avait depuis longtemps cessé de parler de ce projet de pèlerinage, et qu'il était heureux que les sentiments de son entourage ne l'aient pas détourné d'y donner suite en ce moment. « C'est certainement une grande grâce, » dit le patriarche. « Dans les circonstances où nous vivons, il faut savoir gré à l'impératrice, en raison de sa jeunesse et de son caractère passionné, de tout le mal qu'elle ne fait pas. » « Votre sainteté aura sans doute été étonnée que quelques évêques d'Ionie soient venus ici pour se plaindre ?» demanda Mansus avec hésitation. « Je n'en savais rien, » répondit tranquillement le patriarche. « Je le craignais. » reprit Amensius d'un ton triste. Comme je connais trop bien, dit Chrysostome, les éléments qui, dans l'épiscopat aussi bien que dans le bas clergé, me sont hostiles, je ne m'étonne pas qu'ils donnent par de semblables démarches la preuve de l'esprit mondain qui vit en eux. La vindicative Graphia, dit Amensius, mettra tout en œuvre pour faire entrer en grâce son neveu Eugenius. Quel évêque ? S'écria Chrysostome indigné. Quel évêque pourra prêter la main à une pareille abomination et admettre ce mauvais prêtre dans le sanctuaire et à l'autel du Seigneur ? Eugraphia, continua-t-il avec feu, peut employer tous les moyens qu'elle voudra, cela n'arrivera pas. « Oh, vénérable père, » dit Amansus avec tristesse, « vous ne pouvez vous figurer combien le monde cherche à élever la bassesse et à abaisser ce qui est noble. » « Barabbas a été préféré au Seigneur, » répondit le patriarche. « Depuis lors, cela se renouvelle tous les jours, car le monde reste ce qu'il est. Cependant, nous ne voyons pas que les grands prêtres aient reçu Barabbas dans leur compagnie. Au surplus, Eugraphia peut être un instrument dont le Seigneur se sert pour nous fouetter avec des scorpions. Mais confiance, Amansius, la correction n'atteindra peut-être que moi seul. Elle sera d'autant plus inique, ô vénérable père, car d'autres la méritent. Considération humaine, dit le patriarche avec un léger mouvement d'épaule. Mais allez, et dites à l'impératrice que toutes les dispositions seront prises conformément à son désir. Dripia était une ville située sur le Bosphore, à quelques lieues au nord de Constantinople. On venait d'y achever la construction d'une église dédiée à l'apôtre saint Thomas. Le pèlerinage avait pour objet d'y transporter ses reliques. Il devait avoir lieu de grand matin pour éviter la chaleur du jour. Vers minuit, le patriarche se rendit à Sainte-Sophie pour y prendre les reliques qui avaient été déposées jusqu'alors, et de là commencer la procession. À peu près à la même heure, l'impératrice arriva avec toute sa cour, mais sans luxe, et vêtue de la manière la plus simple. La pompe terrestre était cette fois réservée en l'honneur du Saint-Apôtre. Ses reliques étaient enfermées dans une châsse d'or, surmontée d'un voile richement brodé. Quand la procession se mit en marche, l'impératrice prit une des extrémités de ce voile et fit ainsi toute la route à pied. C'était une nuit magnifique. Les étoiles scintillaient au ciel et se reflétaient dans les flots tranquilles du Bosphore, sur le rivage duquel une file interminable de fidèles munis de flambeaux et de torches s'avançait lentement et majestueusement, alternant les prières avec le chant des hymnes et le silence du recueillement. L'impératrice montrait une piété extrême. La grandeur, la dignité sublime que l'Église apporte à ses solennités, la majesté terrestre au service de la majesté divine, la beauté de la nuit, tout dans cette fête parlait au cœur de Doxia et lui donnait une attitude recueillie et des pensées sérieuses. Qu'était-ce que l'éclat, la grandeur d'un César Auguste, auprès de l'éclat et de la grandeur d'un saint martyr, dont les restes étaient transportés avec plus de pompe et de magnificence qu'on n'en avait jamais déployé à l'entrée triomphale d'un empereur vivant. Tandis que plusieurs dames de sa suite, épuisées de fatigue, avaient eu peine à arriver jusqu'à Dripia, où l'on avait préparé des appartements pour l'impératrice et son entourage, Eudoxia ne montrait aucune lassitude. Elle se contenta de prendre quelques instants de repos, après quoi elle reçut l'empereur qui était venu pour assister à l'office solennel de la journée. Il aurait désiré suivre la procession, mais Eudoxia lui fit comprendre que les gardes, les soldats, les armes et tout ce qui appartenait au cortège de l'empereur pouvaient amener du trouble et notamment effrayer les femmes. Il se contenta donc d'arriver dans la matinée. Comme Eudoxia, il s'était dépouillé de tout faste et de tout luxe. Il se montra sans diadème et sans le manteau de pourpre qu'il portait toujours en public. Les soldats de sa garde n'avaient ni lance ni bouclier. Tout cela pour faire comprendre qu'il venait, en simple fidèle, honorer les reliques de l'apôtre et invoquer sa puissante intercession. Chrysostome ressentit une grande et vive joie à voir le maintien pieux du couple impérial. Dans l'allocution qu'il adressa après la cérémonie aux assistants qui se comptaient par milliers, il dit quelques mots qui enchantèrent Eudoxia. Il la compara à Marie qui, pleine d'humilité et de foi, avait marché, en louant Dieu, à la tête des enfants d'Israël. Elle ne fut pas seule à se réjouir de cet éloge. Toute la foule en fut enchantée comme elle, et c'était là le motif principal de la joie d'Eudoxia. Le peuple était enthousiasmé de sa noble souveraine, que le saint patriarche élevait si haut. La nouvelle en vola au-devant d'elle, et quand, dans l'après-midi, elle retourna à Constantinople, portée dans sa chaise à côté de l'empereur à cheval, ils furent acclamés avec des transports sans fin. C'était partout des cris de « Vive l'impératrice, la bonne, la pieuse impératrice !» Gunilde n'avait pas assisté à la fête. Les Ariens ne croyaient pas au dogme de l'incarnation. Par conséquent, ils ne croyaient pas non plus à la vie surnaturelle, qui, découlant de cet acte de l'amour divin, exerce son influence céleste sur les âmes qui vont au-devant de la grâce. Conséquemment, ils ne pouvaient croire aux saints, dont la vie est une expression de cette vie surnaturelle. Conséquemment, enfin, le culte de la puissance et de l'amour de Dieu dans la personne des saints était pour eux incompréhensible. Eudoxia ne forçait jamais Gunilde à assister, contre son gré, aux fêtes catholiques. Elle lui laissait le choix libre, se contentant de manifester quelquefois un désir. Aujourd'hui, Gunilde alla au-devant d'elle et lui témoigna un tendre respect. « Oh, qu'il est beau !» s'écria Gunilde. « Pour une impératrice comme vous, si jeune, si belle, si puissante, si heureuse, d'édifier tout son peuple et de lui donner l'exemple d'une grande piété. « Vous en savez déjà quelque chose ?» demanda Eudoxia toute joyeuse en se laissant tomber de fatigue sur un lit de repos. « Depuis quelques heures, on ne parle plus d'autre chose dans la ville et dans le palais. »« C'est bon, cela me fait plaisir, » fit Eudoxia. « Maintenant, le patriarche peut prêcher ce qu'il voudra. Le coup est paré d'avance, car le peuple n'oubliera pas si facilement qu'il m'a comparé aujourd'hui à Marie. » Gunilde regarda Eudoxia avec ses grands yeux étonnés et lui dit d'une voix battue « Mais la pieuse dévotion de l'impératrice n'a pas dû rester là-bas, car cela ne serait plus de la piété. Dieu seul lit dans nos cœurs et interroge les motifs de nos actes, » répondit Eudoxia d'un ton froid et hautain. « Une impératrice envisage les choses d'un autre œil qu'une jeune fille insignifiante. Faire de la sentimentalité religieuse est un jeu d'enfant. Il faut porter ses regards plus haut, c'est ce que j'ai fait. » Donner un bon exemple, entretenir dans le peuple capricieux le respect pour la majesté du trône, c'est mon suprême devoir. » Gunilde garda le silence. Elle sentit que le vrai et le faux étaient mêlés dans l'esprit de Doxia, mais aussi qu'elle donnait la préférence au faux. L'impératrice était mal disposée à la critique, et doublement susceptible, après tous les triomphes qu'elle venait de remporter. Elle renvoya Gunilde et appela ses dames de service. En s'éloignant, Gunilde rencontra dans l'antichambre Amantius et Hylas. Avez-vous assisté aussi à la comédie des reliques ? Elle leur fit cette question d'un ton sec et passa devant eux sans attendre la réponse. Si elle n'était pas si jolie, dit Hylas, son air fier me choquerait. Mais ça lui va bien, à cette superbe palace. Vous trouvez ? Répondit Amantius étonné. Pour ma part, je ne puis jamais l'entendre ou la voir sans éprouver un sentiment de compassion. « Voilà qui me surpasse, » fit Hylas. « Elle a certes un sort merveilleusement beau. Cette fille d'un traître est bercée sur les genoux de l'impératrice. Cela ne la rend pas heureuse. Alors je l'ai donc bien nommée en l'appelant Pallas, car les divinités seules ont le droit d'élever de plus hautes prétentions. Pour nous, pauvres mortels, qui ne sommes pas habitués aux joies de l'Olympe, le sort de Gunilde est un très heureux sort. Mon Dieu, quelle destinée tout autre est celle de la pauvre Sylvina ? La fille de Ruffin, autre traître. Loin de la capitale et de la vie animée qu'on y mène, elle passe tristement sa jeunesse dans la mélancolique Jérusalem. Elle ne voit que des pèlerins et des moines. Elle n'entend que des hymnes et des psaumes. Elle n'a de commerce avec personne excepté avec ses deux romaines, Mélania et Paula, qui sont allées s'enfuir dans la solitude de la Palestine. La pauvre Sylvina est à plaindre, mais Gunilde... Vraisemblablement, répondit Amantius, Sylvina est plus heureuse dans son cœur et plus contente de sa vie en Dieu que Gunilde ne peut l'être. Alors elles ont toutes deux un goût singulier, fit Hylas. Mais il ne faut pas discuter là-dessus avec le beau sexe. Il a le privilège de pouvoir être capricieux. De quel caprice inouï n'avons-nous pas été victimes ? Nous emmener là-bas ? Vous étiez libre de rester au palais ? L'impératrice n'a donné à personne l'ordre de se joindre à la procession. Mais quand toute la cour et tout ce qui touche à la cour s'y joignaient, il m'était impossible de rester sans passer pour un arien ou quelque autre hérétique que l'impératrice a en horreur, excepté pour la belle Gunilde. L'impératrice a également en horreur dans Gunilde la fausse religion qu'elle professe. Mais elle a de la patience avec cette jeune fille. Elle a en même temps l'espérance de la voir se convertir. Voilà trois grandes vertus à la fois, fit Hylas en riant. Aussi, il vaut mieux ne point parler de petits caprices, n'est-ce pas, mon bon Amantius ? Mais dites-moi, croyez-vous que la procession de Dripia ait établi une paix solide et durable ? S'il en était ainsi, je me consolerais de mon sacrifice. Mon bon Hylas, qu'est-ce qui dure sur la terre ? Répondit Amantius. Espérons et prions.